Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h. Bonjour à tous, nous allons prendre la direction des falaises des Grands Causses pour parler d'un vautour, le gypaète barbu, que l'on surnomme le casseur d'os. Il fait partie des 4 vautours européens. Ils sont tous présents sur notre territoire suite à des programmes de réintroduction en partenariat avec la LPO. Cela a été le cas pour le vautour fauve dans les années 80, le vautour moine en 1996-97. Le percnoptère est quant à lui revenu naturellement. Et depuis 2012, c'est le gypaète barbu qui est réintroduit. Nous en parlons donc ce matin en compagnie de Léa Giraud, chef d'antenne de la LPO Grands Causses. Bonjour.
Bonjour.
Et Jocelyn von der Flick, chargé de mission faune au Parc National des Cévennes. Bonjour Jocelyn.
Bonjour.
Alors tout d'abord, pourriez-vous nous présenter le gypaète barbu dont on dit qu'il est le plus majestueux des 4 vautours européens?
On peut déjà citer donc le nom scientifique de cette espèce, c'est le gypaète barbatus. Et il y a 2 sous-espèces qui existent. Il y a le barbatus meridionalis qui est présent donc en Afrique orientale et méridionale, et la sous-espèce barbatus barbatus qui est présente en Afrique du Nord, en Europe et en Asie, donc la nôtre. C'est une espèce dont la population européenne est très morcelée, notamment parce que la population de l'Europe de l'Ouest avec celle de l'Europe de l'Est sont très séparées les unes des autres, puisque en fait la population historique de tous les pays des Balkans a disparu. Donc il y a un grand fossé entre ces deux populations, ce qui crée des complexités de viabilité générale pour le futur. Et donc si on revient sur la population donc de l'Europe de l'Ouest, on trouve actuellement cette espèce dans les Pyrénées, donc c'est une population sauvage. Il y a aussi une population qui existe dans les Alpes, issue d'un programme de réintroduction depuis les années qui a été initié dans les années 70, qui a duré plus de 40 ans. Et il y a aussi une petite population en Andalousie, en Espagne, issue également d'un programme de réintroduction dans les années 96, un programme qui est encore en cours. Et il y a 2 petites populations insulaires qui existent en Corse et en Crète. Donc c'est une espèce qui est donc protégée, bien sûr, qui est encore en danger d'extinction. Donc l'Union internationale de conservation pour la nature a listé sur sa liste des espèces menacées le gypaète barbu comme une espèce vulnérable à l'échelle de l'Europe et en danger à l'échelle de la France. C'est donc en France, on a comptabilisé en 2021 80 couples sur le territoire national.
Et comment on le reconnaît, comment on le distingue des autres vautours?
Bon, c'est un vautour donc qui fait partie des 4 espèces de vautours, avec le vautour fauve, moine et le vautour percnoptère. C'est une espèce qui fait à peu près 7-8 kilos pour une envergure de 2,60 m, 2,90 m. Donc c'est un gros vautour, même un peu plus gros que le vautour fauve, qui est déjà un gros vautour. Il va avoir un plumage qui va varier en fonction de son âge. Il est plutôt sombre quand ils sont jeunes. C'est les jeunes qu'on va lâcher, là, seront pratiquement tout noir. Et puis au cours du temps, avec les mues successives des plumes, il va prendre une couleur blanche orangée avec une moustache marquée et un œil avec un iris rouge et ce contraste de couleurs fait que c'est un très bel oiseau. En tous les cas, même s'il y a un côté subjectif sur le côté esthétique des oiseaux, tout le monde, quand on voit un gypaète adulte, en tous les cas, est sous le charme de cet oiseau avec des couleurs très contrastées.
Ce qu'on peut rajouter également, que donc le gypaète, comme l'a dit Jocelyn, fait partie des vautours. Tous les vautours sont des espèces longévives. Donc c'est des espèces qui vont vivre très longtemps, mais qui vont se reproduire assez tardivement et assez peu. Donc autrement dit, pour le gypaète barbu, il va atteindre sa maturité sexuelle vers l'âge de 7-8 ans, et puis les premières années de reproduction sont pas forcément des succès. Il va falloir attendre quelques années supplémentaires, et c'est une espèce qui peut vivre jusqu'à aux alentours de 30 ans en nature. On a même des cas de gypaètes qui peuvent vivre jusqu'à 40 ans en captivité.
Et la particularité du gypaète, parce qu'on va peut-être l'oublier, c'est que on l'appelle le casseur d'os parce que il se nourrit d'os pour l'essentiel à 80-90%, et il vient compléter ce qu'on appelle la guilde des nécrophages, c'est-à-dire l'ensemble des oiseaux qui profitent des cadavres d'animaux sauvages ou domestiques, en tous les cas dans la nature, en finissant le travail d'équarrissage en consommant les os. Alors soit les os sont d'une taille suffisamment petite pour qu'ils puissent les ingurgiter, soit ce sont des os un peu plus gros, et donc il a la particularité de prendre ces os et d'aller sur des pierriers, sur des endroits très spécifiques pour les casser, et il va récupérer au sol ces fragments d'os qu'il peut ingérer.
Donc il est l'âge de très haut en fait.
Oui, suffisamment haut pour que lorsque l'os va toucher le sol, il va pouvoir, avec la vitesse et son poids, se casser.
Et donc, pourquoi on le réintroduit depuis 2012 dans les grands causes?
Moi, je poserais la question plutôt autrement, et Jocelyn a en partie commencé à répondre à ça, c'est pourquoi réintroduire les vautours dans les grands causes? Puisque l'objectif cherché, c'est de restaurer une guilde des nécrophages, comme il a commencé à en parler, Jocelyn. C'est quatre espèces de vautours qui se complètent dans la consommation d'un cadavre. On le répète, ce sont des rapaces nécrophages, donc qui se nourrissent essentiellement de charogne, et donc qui sont utiles pour nos écosystèmes puisqu'ils vont nettoyer la nature et les écosystèmes de ces carcasses, de ces charognes qui peuvent être source de foyers pathogènes et donc contaminer les eaux ou bien des animaux sauvages ou domestiques. Donc ils sont vraiment utiles en cela, et ils se complètent de par leur mode d'alimentation puisque chacun va avoir une particularité et consommer une partie du cadavre. Donc on l'a dit, le gypaète vient en bout de chaîne, mais le premier à s'alimenter sur un cadavre, et donc qui va pouvoir, je dirais, ouvrir le cadavre, c'est le vautour fauve, qu'on appelle le tireur-fouilleur, parce qu'avec son long cou, il va pouvoir pénétrer dans les orifices, et donc commencer à ouvrir ce cadavre-là. Et par la suite, viendra ensuite le vautour moine, qui lui mange des petites parties un peu plus coriaces, parce qu'il est doté d'un bec plus coupant. Et puis le vautour percnoptère qui, lui, c'est le plus petit des vautours et le seul migrateur, qui vient picorer un petit peu des restes, et le gypaète barbu qui vient à la fin. Donc l'idée pour restaurer cette guilde des nécrophages, c'était initialement, donc c'était l'introduction de cette émission, justement, c'était de réintroduire tout d'abord les vautours fauves. Donc ça a été dans les années 80, puis après le vautour moine, et là maintenant on est donc à ce troisième programme de réintroduction, puisque le percnoptère n'a pas fait l'objet de réintroduction, mais maintenant c'est le programme de réintroduction pour le gypaète barbu qui a été initié en 2012 dans les Grands Causses. Et depuis 2015 fait l'objet d'un outil financier qui s'appelle le LIFE, et donc on le nomme maintenant le LIFE Jeep Connect, puisque c'est un projet qui est donc national, puisqu'il ne se passe pas uniquement chez nous, mais on y reviendra peut-être après.
Ouais, pour compléter, c'est vrai que ce projet de réintroduction, le pourquoi. Alors, on va parler un peu des questions un peu plus philosophiques, mais le pourquoi, c'est que déjà on avait la compétence technique pour pouvoir le faire, avec de bonnes chances en tous les cas que cette opération marche. La LPO et le parc ont initié les premiers programmes de réintroduction des vautours en Europe et pratiquement dans le monde. Et donc il y a un savoir-faire en tous les cas technique pour opérer ces réintroductions. Après, sur le plan philosophique, les vautours de toute façon avaient disparu liés aux activités humaines par destruction directe, tir, empoisonnement, piégeage. Et peut-être d'autres causes qu'on n'a pas encore totalement, complètement identifiées. Et donc il est, à mon sens, en tous les cas, un devoir moral de pouvoir restaurer, quand c'est possible, au niveau technique, au niveau financier, au niveau de provenance des oiseaux dont on va parler par la suite, de le faire. Et tout programme de réintroduction interroge notre humanité par rapport au vivant, au vivant non humain. La deuxième raison, c'est donc au-delà de cet aspect que cette espèce a disparu sûrement au cours du 19e siècle, comme beaucoup d'espèces de grande taille, il est de notre devoir de pouvoir le remettre en tous les cas dans les écosystèmes où il avait disparu. La deuxième raison, c'est que on a dans des centres d'élevage, dans des centres de soins, des individus qui sont plus aptes à la vie sauvage, mais qui produisent chaque année des jeunes. Et ces jeunes, on leur donne la chance, dans ces programmes de réintroduction, de retourner à l'état sauvage. Donc ça, c'est aussi un élément important. On a de la reproduction en captivité. Et ces oiseaux, bah, on leur donne la chance, en tous les cas, de devenir les oiseaux sauvages qui vont reconstituer les populations disparues.
Donc Léa, vous disiez, hein, depuis 2015, ce programme donc s'appelle le Life Jeep Connect. Hein, donc l'un des objectifs, c'est de favoriser la circulation, les échanges des différentes populations. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas seulement un programme de réintroduction dans les grands causes, il y en a aussi ailleurs pour mailler le territoire.
Oui, tout à fait. Ce qu'on peut rappeler, c'est que c'est pas un programme, je dirais, unique et qui sort de nulle part. Il s'inscrit dans un plan national d'action en faveur de l'espèce qui est mis en œuvre par le ministère. Donc c'est un des objectifs de ce plan national d'action. Le Life Jeep Connect va donc avoir comme objectif principal de renforcer la population nationale du gypaète barbu, puisque en fait même en France, on a parlé de la population européenne, mais même la population européenne est tout de même morcelée, la population de l'Ouest est tout de même morcelée, puisque la population pyrénéenne sauvage est à ce jour encore assez lointaine de la population des Alpes, et donc effectivement le programme Life Jeep Connect va aider les connexions de ces deux populations en créant des petits noyaux de populations viables dans les Grands Causses et également dans les Préalpes. Donc dans les Préalpes, il y a deux sites de lâcher, un dans les Baronnies Provençales et un dans le Vercors. Et donc le but, c'est d'avoir des petits noyaux viables qui vont permettre par la suite d'assurer des échanges d'individus entre les populations des Alpes et des Pyrénées pour assurer la viabilité sur le long terme à l'aide d'un brassage génétique de la population pour éviter la consanguinité en fait des populations des Pyrénées et des Alpes.
Donc ça veut dire que cette année, il n'y aura pas seulement un lâcher dans les Grands Causses, les autres territoires sont aussi concernés?
Cette année, il y a un lâcher dans les Baronnies également. C'est normalement, en fait, les Préalpes sont considérés comme un site de lâcher. Donc une année sur deux, c'est un lâcher dans les Baronnies et une autre année, un lâcher dans le Vercors.
D'accord. Donc pour en revenir aux Grands Causses, pour revenir chez nous, donc chaque année, ils sont lâchés alternativement donc en Lozère, hein, dans le parc national des Cévennes, ou dans l'Aveyron, hein, le parc naturel des Grands Causses. Alors les sites de lâchés, donc ils sont maintenant historiques. Comment ont-ils été choisis et est-ce qu'ils sont à ce jour définitifs?
Ils ont fait l'objet de différentes investigations de la part du personnel de la LPO et du parc pour trouver les meilleurs sites qui nous semblaient les meilleurs pour la réintroduction de cette espèce. Donc il fallait trouver des vires qui soient initialement protégées naturellement, en tous les cas de la pluie, des intempéries pour les oiseaux qui sont mis sur ces vires, dans des pentes, qu'il n'y ait pas de problèmes ou de dangers identifiés liés au site, comme des lignes électriques. Il faut évidemment une acceptation du propriétaire une fois que le site est défini. C'est pas une chose non plus toujours très simple. Donc les deux sites qui avaient été, il y avait 4-5 sites qui avaient été initialement proposés en tous les cas pour le programme de réintroduction. Il y en a deux qui ont été retenus, un en Aveyron puis un en Lozère. Et on utilise toujours les mêmes sites actuellement pour les programmes de réintroduction, même si on cherche des sites alternatifs, puisque le gypaète, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, c'est un oiseau territorial, contrairement notamment au vautour fauve, qui est plutôt une espèce grégaire, c'est-à-dire que si on a un couple qui s'installe près d'un site de lâcher, bah ce site de lâcher va être plus compliqué à l'avenir de mettre des jeunes oiseaux, puisqu'il pourrait y avoir des interactions avec le couple cantonné données sur le secteur. Donc il est important à l'avenir, en tous les cas, qu'on trouve d'autres sites de lâchers qui auraient en tous les cas les mêmes configurations qu'on le souhaite que ceux qu'on a identifiés initialement.
Oui, oui, c'est, enfin, comme le dit Jocelyn, ces sites ont été choisis suivant des critères très stricts. Alors, effectivement, on pourrait penser que il y a énormément d'habitats favorables, mais en fait, c'est pas évident de réunir toutes les conditions pour trouver les sites adéquats. On peut également citer le besoin d'avoir autour du site de lâcher des milieux ouverts pour que les gypètes puissent rechercher de quoi s'alimenter, une disponibilité aussi en ressources alimentaires. Autour du site de lâcher. Alors dans les grands causes, on n'a pas trop de difficultés par rapport à ça, puisque on a quand même de nombreux élevages présents sur le territoire, des mortalités au pâturage et aussi un vaste réseau de placettes d'écarissage naturel qui permet de rendre accessibles les carcasses issues des troupeaux domestiques aux vautours. Donc les gypètes n'ont pas manqué de nourriture sur le territoire.
Oui, il y a plus d'une centaine de placettes sur les grands causes.
Et puis c'est vrai qu'il y a le côté pour les oiseaux, puis il y a le côté pour nous, c'est-à-dire avoir des sites qui soient facilement aussi accessibles pour pouvoir les surveiller et les alimenter le temps qu'ils sont sur la vire.
Donc le prochain lâcher aura lieu le 9 mai à Mérues, et on rappelle que ce lâcher est ouvert au public, donc le public est le bienvenu pour venir découvrir les oiseaux. Donc il y en aura deux. D'où viennent ces gypaétons?
Alors le premier vient du zoo de Ostrava en République tchèque, et le second vient d'un conservatoire d'espaces naturels français qui se nomme Aster en Haute-Savoie.
Donc on dit qu'ils sont jeunes, ils font combien de kilos? Parce qu'on, enfin quand on dit des poussins, là c'est plus que des poussins.
Ils ont presque le poids d'un individu adulte. La croissance d'un oiseau, en tous les cas, entre l'œuf, l'éclosion de l'œuf et son envol, est très très rapide, puisque c'est une période de risque pour les jeunes. Donc ils arrivent autour de 90 jours. Et c'est-à-dire à un âge où ils sont pas encore en âge de voler, mais à un âge où ils sont capables de s'alimenter eux-mêmes. Ça, c'est un élément important. Et ils vont rester à peu près un mois dans la vire, dans la cavité, avant de prendre leur envol autour de 120 jours. Alors, il y en a qui sont un peu plus précoces, et puis d'autres qui sont un peu plus tardifs, qui vont prendre leur envol avec une dizaine de jours de différence.
Très bien. Donc, comment fonctionne le partenariat avec les centres d'élevage et les zoos? J'imagine qu'il y a tout un réseau.
Et du coup, enfin, on va revenir sur l'origine de ces oiseaux. Comme Jocelyn l'a très bien dit, ce programme de réintroduction, il est assez particulier, puisque contrairement aux autres programmes pour le vautour fauve et le vautour moine, ce sont des oiseaux, là, pour le cas du gypète barbu, des oiseaux qui sont produits en captivité, que l'on réintroduit, puisque en nature, il n'y a pas suffisamment de gypètes pour les prélever et puis pour les relâcher ailleurs. Et puis le programme en lui-même, en fait, a souhaité relâcher des jeunes encore non volants. Pourquoi? Parce qu'ils vont identifier le site de naissance comme leur site, enfin le site de lâcher comme leur site de naissance. Et le fait que ça soit une espèce qu'on dit philopatrique fait que normalement, quand il atteindra la maturité sexuelle, il restera ou il reviendra, s'il a voyagé ses premières années, il reviendra sur son site de naissance pour se reproduire. C'est pour ça que ce programme-là s'intéresse vraiment au relâcher de jeunes oiseaux, qui sont donc produits via un programme européen d'élevage en captivité pour l'espèce, et qui regroupe de nombreuses structures participant à ce réseau-là. Il y a 35 zoos qui participent à l'élevage de gypaètes barbus. Il y a deux particuliers et également deux centres de soins et 5 centres d'élevage spécialisés pour la reproduction de l'espèce. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les zoos, je dirais, le rôle des zoos et des particuliers qui ont généralement un ou deux couples, ça va être essentiellement de réussir la reproduction de l'espèce, ce qui est pas du tout assuré, parce que c'est quand même une espèce qui est très complexe et très sensible, et donc pas évident à faire reproduire en captivité. Et les centres d'élevage spécialisés, eux, ont développé plus de compétences dans la reproduction et dans la connaissance de l'espèce. Et donc, se sont orientés plutôt dans l'élevage et la reproduction des couples plus difficiles, ou bien l'adoption de poussins, puisqu'il y a certains couples de gypaètes qui ne vont pas être capables, en captivité, d'élever leurs poussins. Et donc, ces poussins-là vont être adoptés par d'autres couples et élevés par ces couples d'adoption. Et puis, évidemment, les centres d'élevage spécialisés vont chercher aussi, vont s'assurer la viabilité génétique de la population captive et donc intégrer de nouvelles lignées aussi chaque année.
D'accord. Et combien de temps avant le lâcher, avez-vous connaissance de leur provenance, du nombre d'oiseaux dont vous disposerez? Comment ça se passe?
On a le nombre d'oiseaux et la date du lâcher, puisqu'on les lâche à 90 jours, et ça c'est quelque chose de très important, hein, à quelques jours près. Hein. La reproduction des gypaètes en captivité dans ce réseau, par exemple, cette année, on nous a appris il y a pas très très longtemps qu'on était à 46 couples qui ont donné 72 œufs, dont 45 étaient fertiles. Les deux oiseaux qu'on va voir font partie de ces 45 œufs qui ont été fertiles cette année. Donc on le sait à peu près un mois à l'avance, et puis on le sait à peu près en même temps le nombre d'oiseaux. Le sexe, par contre, lui, c'est plus un peu plus tardif, et pour le moment, on n'a pas encore connaissance, en tous les cas, du sexe des deux oiseaux qu'on va avoir là pour le lâcher le 9 mai.
Et ça veut dire que sur ces 46 œufs, enfin, mais qu'est-ce qu'ils vont tous devenir, tous ces œufs? Ils seront tous, ils s'envoleront tous quelque part ou pas?
Tous les œufs produits n'ont pas forcément éclos, donc c'est pas 46 poussins.
Oui.
Il y a à peu près la moitié qui a éclos, et après quelques poussins n'ont pas survécu. Donc je crois qu'il me semble cette année c'est 17 à peu près, 17 poussins qui ont survécu. Donc une partie va rester pour le stock capital. Et une autre partie va être donc réintroduite sur différents sites. On n'a pas cité, mais effectivement, on a parlé du Live Gyp Connect, qui a donc deux sites de lâcher, dans les Grands Causses et dans les Préalpes. Mais il y a aussi d'autres programmes de réintroduction, puisque il y a un plan d'action européen pour l'espèce, qui a le même objectif, mais à l'échelle européenne, de reconnecter toutes les petites populations existantes. Et donc, il y a d'autres programmes de réintroduction. Et actuellement, en cours, il y a le programme en Andalousie, encore en cours. Il y a un programme dans la région de Valence, en Espagne, à Maestrazzo. Il y a également un site dans le sud de l'Allemagne, avec la frontière autrichienne. Et il y a encore des oiseaux qui sont relâchés dans la petite population insulaire de Corse, pour le renforcement génétique de cette petite population. Et il y a également en Suisse des relâchés qui continuent de la même manière pour assurer le brassage génétique de la population là-bas.
Oui, c'est important de voir que maintenant le gypaët est partout présent dans les Alpes européennes, puisqu'il a fait l'objet de programmes de réintroduction à la fois en Italie, en Suisse, en Autriche. L'Allemagne va initier un programme de réintroduction de l'espèce, et on est actuellement sur 62 couples connus pour l'ensemble des Alpes européennes, dont 22 en France, et tous ces oiseaux sont issus de programmes de réintroduction des différents pays européens. Donc effectivement, ces programmes de réintroduction donnent en tous les cas des résultats positifs sur la dynamique de ces populations. Et même la petite population de Corse, hein, il reste plus que 3 couples en Corse, alors qu'on en avait près d'une dizaine encore 10 ans en arrière, fait l'objet d'un programme de renforcement à partir des oiseaux de ce réseau dont on a parlé tout à l'heure.
Ça veut dire qu'il y a quand même une diversité génétique importante, vu la diversité des provenances.
Et il faut l'assurer sur le long terme. Donc c'est vrai que ça fait l'objet d'attention vraiment particulière par le coordinateur du réseau d'élevage.
Très bien, je vous propose de faire une petite pause musicale avant de revenir au gypaète.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde, le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour. Au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour.
Les deux oiseaux qui seront lâchés le 9 mai seront baptisés par les écoliers de Lannuéjouls et Saint-Enimie. Après avoir été équipés de balises GPS, ils seront donc déposés dans une vire rocheuse. On l'a dit tout à l'heure, ils sont âgés de 3 mois, ils sont encore très jeunes, donc ils seront nourris et surveillés nuit et jour, Léa.
Oui, tout à fait. Donc, comme dit Jocelyn, c'est des poussins qu'on reçoit. Alors, certes, ils ont une taille adulte, mais ils auraient eu en nature encore besoin de leurs parents pendant quelques semaines, quelques mois. Et donc, on va jouer ce rôle. Enfin, pas directement, mais indirectement, puisqu'ils ont besoin, ils sont pas volants, donc ils ne peuvent pas rechercher leur nourriture, et ils ont quand même besoin de protection encore, puisqu'ils sont vulnérables étant non volants. Donc, dans la vire rocheuse où on les aura déposés, on aura sécurisé le site pour éviter qu'il y ait des intrusions de prédateurs, par exemple, et on va faire une surveillance vraiment quotidienne, 7 jours sur 7. Il y a une équipe de surveillants qui est recrutée pour ça, de 5 surveillants, il y a les agents du parc national des Cévennes qui participent aussi et les agents de la LPO également. Donc voilà, il va y avoir un roulement de tout ce personnel-là pour suivre méticuleusement les nouveaux arrivés. Et également, on va devoir les nourrir à raison de 2 fois par jour. C'est donc des pâtes d'agneau qu'on récupère et également des déchets de boucherie qu'on va donc découper et nourrir de façon à ne pas se montrer, puisqu'il ne faut pas visuellement que l'on se montre par rapport aux poussins pour pas qu'ils soient en contact physique trop proche avec l'homme.
Donc c'est vous procédez comment ?
Eh bien, il y a des panneaux sur les côtés qui nous permettent, avec des petites portières, qui nous permettent rapidement de déposer. Ou bien, selon le site, par le dessus de la vire, on peut également lâcher la nourriture.
Est-ce qu'ils reçoivent la visite de congénères qui sont un peu curieux, qui viennent voir ce qui se passe dans la vire ?
Alors, les oiseaux qui ont été relâchés les années précédentes viennent voir très rapidement même les nouveaux arrivants sur le site. Et je pense que ça contribue en tous les cas dans la sélection des sites d'avoir une population déjà établie, c'est-à-dire des individus qui sont fixés sur le territoire des grands causes, contribue en tous les cas à rassurer les sûrement, hein, c'est un peu de l'anthropomorphisme, à rassurer les nouveaux arrivants en tous les cas en se disant tiens, il y a quand même des congénères de notre espèce et ils se reconnaissent assez rapidement qui sont présents sur le site.
Et donc pendant jusqu'à l'envol, donc ils vont faire un peu d'exercice, battre des ailes. Enfin voilà, il y a toute une
oui la surveillance du coup va consister à vraiment s'assurer du bien-être et de la bonne évolution des poussins. Donc on va regarder s'ils fientent bien. Il y a voilà différents indicateurs qui nous permettent d'avoir ces connaissances-là. S'ils s'alimentent, s'ils fientent, s'ils interagissent entre eux, s'ils battent des ailes et de manière beaucoup plus fréquente chaque jour, puisque ça c'est un des indicateurs voilà qui va nous dire que effectivement oui on peut ouvrir le grillage pour le laisser tenter le premier envol. Donc effectivement, je dirais que le premier mois va consister à surveiller depuis un poste d'affût à quelques mètres de la vire de lâcher. Et par la suite, donc dès les premiers envols de l'oiseau, alors c'est pas un envol, c'est pas en un jour qu'il va être, qu'il va connaître toutes les techniques de vol et être un expert, voilà, pour le vol, il va devoir s'exercer plusieurs jours, plusieurs semaines pour vraiment maîtriser ces vols-là. Et donc c'est vrai que c'est une des périodes aussi les plus sensibles et qui nécessite vraiment une vigilance de la part de l'équipe de surveillance, puisque il peut se mettre dans des situations très délicates les premières semaines et des fois ne pas parvenir à reprendre de la hauteur pour voilà se dégager et puis pour reprendre son envol. Donc l'équipe de surveillance est très attentive sur cette période-là et parce que peut-être elle va devoir agir pour le récupérer en difficulté et le remettre un peu plus haut, voilà, avec un peu plus de hauteur pour qu'il puisse reprendre son vol.
On a vu pour certains jeunes, enfin quelques mois après le lâcher, certains sont allés très loin aux Pays-Bas, en Roumanie, avant de revenir dans les grands causes et pour visiblement s'établir. Comment on explique pourquoi ils vont prospecter si loin peu de temps après?
Alors le pourquoi, j'aurais du mal à répondre. Le pourquoi, par contre, c'est un comportement assez normal chez ces espèces longévives. Léa a dit que c'est des espèces philopatriques, ça veut dire qu'ils vont revenir pour une partie importante, en tous les cas, de la population sur leur site de naissance. Et puis il y a quand même dans toute population une part d'aventuriers, c'est ça, sur ça qu'on compte aussi dans le programme LIFE, c'est-à-dire qu'il y a une partie des individus qui vont s'installer aussi ailleurs, de là où ils sont nés, ce qui permet le brassage des populations. Mais ça c'est l'exception parmi la population. Et on a déjà par exemple un oiseau qui a été lâché ici, qui s'est installé et qui forme un couple d'ailleurs dans les Alpes. Donc le comportement classique de ces oiseaux, c'est qu'ils vont passer leur première année sur site et au printemps de l'année suivante, ils vont commencer à prospecter. Alors certains sont des aventuriers au long cours, ils vont prospecter très loin. On a un oiseau qui a prospecté évidemment une bonne partie de l'Europe du sud jusqu'en Roumanie. Et puis il y a des oiseaux qui partent un peu moins loin. Mais ça, c'est un comportement classique qu'on observe pratiquement pour tous les oiseaux qui ont été lâchés ici.
Depuis 2012, donc 30 gypaètes hein, ont été lâchés. Combien sont encore présents sur le territoire des Grands Causses?
Alors, sur le territoire des Grands Causses, il y a encore 11 individus qui sont présents. Il y a deux adultes, donc Leiro et Adonis, qui ont été lâchés en 2013 et en 2014 et qui ont formé un couple depuis 2012, depuis 2017. Et il y a ce sont deux mâles hein, donc c'est un couple de mâles. Il y a également un subadulte Calandretto qui a été lâché en 2017. Il y a cinq qui maturent, un qui s'appelle Seven qui a été lâché en 2019 et quatre lâchés en 2020. Et il y a encore trois jeunes issus du lâché de 2021.
Et les autres, qu'est-ce qui leur est arrivé?
Bah alors, les autres, il y a une partie en tous les cas des oiseaux dont on n'a plus de nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément morts, mais puisque leur système de GPS n'émet plus, on n'a pas d'observation directe. Mais des fois, on a eu quand même quelques surprises d'oiseaux qu'on n'avait pas eu de nouvelles depuis un certain temps, puis ils ont été revus. Et puis, il y a une partie qui sont morts. Ils sont morts quelques jours après leur arrivée sur site, pour des question de d'état de santé, mais avant l'opération de réintroduction. Et puis on a eu un cas d'empoisonnement, on a eu au moins deux cas d'électrocution,
cas de destruction volontaire aussi,
et de tir sur des oiseaux. Voilà.
Un également n'était pas viable et a dû être remis avec le stock captif, donc a réintégré un zoo en fait. Et un est devenu reproducteur également, comme on l'a dit tout à l'heure. Un est devenu reproducteur dans les Alpes.
Et donc pour ceux qui restent, et peut-être d'autres pourraient revenir, en tout cas pourraient venir dans les Grands Causses, peut-on espérer avoir prochainement une première reproduction dans les Grands Causses?
Prochainement, oui. Après, de toute façon, c'est un programme qui demande énormément de patience. Oui, on espère bien que prochainement, on puisse constater la première reproduction. Alors après, là, actuellement, sur les 11 individus, on a 6 mâles et 5 femelles. Mais il faut rappeler que les 5 femelles, elles sont encore jeunes et immatures. Donc, à ce jour, on peut pas, avec les individus, on peut pas avoir demain une reproduction, c'est sûr et certain. Après, on peut espérer, en attendant que ces femelles deviennent matures, on peut espérer la venue d'une femelle mature de l'extérieur. C'est possible. Mais voilà, si on garde notre petit pool d'individus présents dans les Grands Causses, il faudra encore attendre quelques années avant une reproduction réelle dans les Grands Causses. Ce qu'on peut espérer, et ce qui serait annonciateur de bonnes nouvelles, c'est l'établissement d'un couple mixte, puisque là, effectivement, on a un couple, mais un couple de mâles. Donc si déjà on a un couple mixte, même d'immature, avec un jeune, c'est déjà annonciateur de bonnes nouvelles.
C'est assez courant pour l'espèce, un couple de mâles qui s'établit, et puis dans l'attente de la venue d'une femelle.
Alors, c'est assez courant, les trios, effectivement, pour l'espèce. Après, je ne saurais pas vous dire si, selon plusieurs années, un couple homosexuel peut accueillir ou non une femelle. Ça, je ne sais pas.
Et on le verra, en tous les cas. Donc, ça sera un cas d'expérience, en tous les cas, dans les Grands Causses.
Bon, à plus long terme, à partir de combien de couples présents sur le territoire, on peut estimer que le programme de réintroduction a fonctionné, que maintenant la population, elle est capable de s'agrandir naturellement?
Ouais. Le premier jalon, comme l'a dit Léa, ça va être la première reproduction avec un premier jeune à l'envol. Donc on peut l'attendre dans les années qui viennent, hein, dans 4-5 ans, on espère en tous les cas avoir une première reproduction. C'est pas dire que ce jeune sera forcément, puisque les jeunes couples en tous les cas de gypaètes échouent les premières années, mais ça sera déjà un premier signe qu'il y a bien tentative de reproduction, ce qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Et puis après, on a du mal à évaluer l'effectif de la population qu'il y aura à plus moyen et long terme, en tous les cas dans les Grands Causses. Mais comme c'est une espèce territoriale qui est de toute façon une espèce rare, c'est-à-dire avec des effectifs qui sont faibles, on ne sera pas du tout dans les mêmes effectifs, en tous les cas, que pour les autres vautours. Donc si on arrive à avoir entre 5 et 10 couples dans les 30-40 prochaines années, ça sera déjà peut-être le maximum qu'on puisse avoir en termes de potentialité d'accueil sur le territoire des Grands Causses.
Après, c'est des programmes qui sont suivis aussi scientifiquement, parce que c'est vrai que c'est difficile de répondre comme ça, combien de couples vont pouvoir accueillir les Grands Causses. On a une idée en termes d'habitat, en termes de ressources alimentaires. Après, ça demande des analyses plus poussées, de viabilité de la petite population qui sera présente dans le futur sur les Grands Causses, avec voilà des scientifiques qui vont faire des analyses démographiques, des scénarios de viabilité pour savoir si oui ou non notre petite population elle peut être viable sur le long terme ou pas.
D'accord. Donc, suite au lâcher du 9 mai, est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation prévues par la LPO?
Alors oui, alors cette année est un peu particulière pour nous en tout cas, puisque on manque d'effectifs. Normalement, on a une salariée qui est chargée de communication et de sensibilisation, donc on en fera beaucoup moins que les autres années. Néanmoins, on proposera en plus des animations que proposera le Parc National des Cévennes, également des stands d'observation depuis le camping de Salvinsac à Merwès. J'ai pas les dates en tête, mais je vous invite à regarder le site internet de l'ALPE au Grand Causse, où on mettra voilà les informations avec les dates pour la mise en place de ces stands d'observation.
Oui, pareil, moi, du côté du parc, le programme d'animation va bientôt sortir, donc on vous invite aussi à vous rapprocher des maisons du tourisme pour pouvoir le feuilleter, et également du site internet du parc, donc où il sera en ligne, et de même les animations seront à l'agenda. Donc voilà, si vous ne pouvez pas venir le 9 mai mais que vous voulez en savoir plus sur le JPAET, donc n'hésitez pas à venir à ces animations. C'est la fin de cette émission, je vous remercie, à bientôt. Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h.